D'un cadre archaïque, ce qui en réalité vient de leur arriver sous cette pression étrangère à leur culture et à leur foi. Sur les prodiges qui sauvent Daniel et ses compagnons, qui obéissent à Dieu plutôt qu'au roi, la critique historique nous apprend donc que les véritables héros sont, plutôt que Daniel, les martyrs qui venaient tout récemment de subir les persécutions féroces infligées à Israël par un des successeurs d'Alexandre, Antiochus Épiphane, 175 à 164 avant Jésus-Christ. Peut-être les récits dont on confectionna le livre avaient-ils déjà circulé au moment même de la crise, clandestinement. Ainsi pourrait s'expliquer ce caractère codé. D'autres noms, inconnus de nous, étaient à lire sous ceux de Nabuchodonosor, Daniel, Shadrach, Mésac et Abnéago, Sidrac, Midrac et Abdénago de nos anciens livres, etc. Les prodiges qui sauvent les justes dans ce livre ont un côté magique et extrême que l'on ne découvre pas ailleurs dans la Bible. Jetés dans la fournaise tout ligotés, avec leurs pantalons, leurs tuniques, leurs bonnets et leurs manteaux, pour avoir refusé d'adorer une statue d'or, voilà que le roi les trouve au matin, qui n'exhale même pas une odeur de brûlé au milieu des flammes et respirant la santé. Un ange au milieu d'eux. Ils chantent les louanges de Dieu. Sur ce, par un prodige à peine moindre, le roi idolâtre se met à bénir le Dieu d'Israël et accorde aux héros ses bienfaits. On n'avait jamais rien vu de pareil. L'auteur transpose, sur un mode un peu féerique, des faits réels. Des Juifs avaient préféré mourir plutôt que de transgresser leur loi. C'était lorsque Antiochus Épiphane, fier de rassembler de nombreux peuples dans son empire, avait interdit sous peine de mort d'obéir à cette loi de Moïse parce qu'elle mettait à part un seul parmi tous ses peuples. C'était si beau, aux yeux du roi hellénisé, de devenir un grec, comme tous les autres s'y étaient empressés. Or, le sort de ces martyrs de la loi est bouleversant pour Israël, et lui apporte une expérience nouvelle, car sa religion, pendant des siècles, avait promis le bonheur à ceux qui observeraient la loi de Moïse, après quoi l'on s'était scandalisé de voir prospérer tant de méchants. Mais, cette fois, tout s'aggrave bien davantage. C'était précisément parce qu'ils avaient observé la loi que des justes avaient été tués, et sans que Dieu fasse rien pour eux. Pourtant, ils s'étaient préparés à être fidèles, quand bien même Dieu n'interviendrait pas pour les soustraire au supplice. S'ils restaient fidèles, ce ne serait donc pas pour échapper à la mort. Un autre épisode montre Daniel jeté dans la fosse aux lions, dont le roi Darius fait sceller le couvercle de pierre. Les fauves épargnent le condamné, et le roi leur jette en compensation ses accusateurs, dévorés avant d'être arrivés au fond de la fosse, ainsi comme on s'en doute que leurs femmes et leurs enfants. Le plus beau dans ce récit naïf, c'est que le roi n'avait agi que contraint et forcé par ses ministres, s'était approché de la fosse en tremblant, et trouvant Daniel en paix parmi les lions, avait dans sa joie, prodige plus merveilleux encore que les précédents, édicté que tous les peuples aient à bénir le Dieu d'Israël. Derrière les miracles se profile ce qui est le plus inouï. Il est montré que le juste n'obéit pas par crainte, et que la fidélité à la loi de Moïse n'entraîne chez le peuple élu aucun mépris pour les nations du monde. En sauvant Daniel, Dieu n'a pas voulu convertir le roi païen à la loi juive, mais il a changé son cœur. C'est le thème d'une histoire de Nabuchodonosor changé en bête, châtiment qui lui vaut finalement de se repentir et de plaire à Dieu. Récit invraisemblable en surface, mais instructif au fond, sur les dispositions que ce livre favorise chez des hommes que d'être persécutés pourrait porter au fanatisme aveugle. La victoire sur la crainte de la mort et l'amitié qui dépasse les frontières ethniques et religieuses, voilà le plus inouï. Or, pour l'essentiel, cet inouï sera montré, cette fois sans le détour de pareilles images, dans le second livre des Maccabées, qui, 50 ans plus tard, raconte cette fois les événements réels auxquels le livre de Daniel s'était référé. Ainsi, 7 frères sont morts sous les yeux de leur mère pour n'avoir pas consenti à manger du porc, parce que la loi de Moïse l'interdit. Ils ont été longuement torturés sans que Dieu arrête le bras du bourreau. Sous la torture, ils ont déclaré avec assurance leur espoir. Dieu les ressusciterait. Leur itinéraire n'est donc pas identique à celui de Daniel et de ses compagnons. Ceux-ci, Dieu les sauvait avant leur mort. Alors que les 7 frères ne voient pas leur salut de leurs yeux de chair dans ce monde. Et ceux qui les regardent mourir le voient encore moins. Eux, le salut les rejoint dans la mort, et pour ce motif, ils restent invisibles. On peut alors se demander pourquoi l'histoire de Daniel n'a pas poursuivi le récit jusqu'au bout. Puisqu'il s'agit de 2 récits de mêmes événements, dans l'intention claire ou cachée de raconter la persécution jusqu'au martyre, comment expliquer qu'ils diffèrent à ce point, en faisant voir soit la perte, soit le salut des héros? Daniel traite du martyr un peu comme s'il y avait assisté à travers une vision d'en haut. Le temps du martyr est, pour le voyant, le temps du salut. Or, ce qui apparaît au voyant n'apparaît, en règle générale, à personne d'autre. En même temps, s'il décrit la situation jusqu'au degré extrême de l'hyperbole, s'il pousse l'impossible jusqu'au bout en supprimant les transitions, il n'en reste pas moins que les traits qu'il exagère de cette façon, il les emprunte à la tradition. La fosse, la gueule du lion. Ce sont les images des psaumes. Seulement, les psalmistes disent avoir été préservés de la fosse mortelle ou demandent de l'être. Aucun ne l'approche de si près que Daniel et ses amis. Mais la marque de parenté la plus forte entre les psaumes et notre livre, c'est encore l'alliance de l'épreuve et de la louange. Marcher au milieu du feu en louant Dieu, précisément dans le même temps. Tout le psautier est là. Ce souci de continuer en les prolongeant, les représentations d'autrefois, quand il s'agit de franchir un seuil aussi radical que celui où une lumière sur la résurrection se fait jour, est d'une grande portée. Nous pouvons dès lors entendre que, à l'époque de Daniel, les psaumes sont déjà interprétés par le moyen d'une clé prophétique, celle que pratiqueront la meilleure part d'Israël et la première génération chrétienne. David, dira saint Pierre, était prophète, acte 2, verset 30, et ses psaumes signifiaient plus qu'on ne pouvait en comprendre en son temps. Si à l'époque de Jésus, toute l'école pharisienne tient pour certaine la résurrection des corps, ce ne peut être sans appui dans l'Écriture. Mais comme celle-ci reste dans le Premier Testament plus que discrète à ce sujet, encore fallait-il l'interpréter pour suppléer à ses silences. Le thème du sauvetage, pour lequel les psalmistes remercient Dieu, a été transposé à partir d'une certaine époque à la traversée non plus d'un danger particulier, mais de la mort elle-même. Daniel représente une étape décisive sur ce chemin. Il prend position là-dessus clairement, quoique en peu de mots, quand il écrit « Beaucoup de ceux qui dorment dans le sol poussiéreux se réveilleront. » Daniel, chapitre 12, verset 2. Notons enfin que parler de la résurrection à mots couverts a ses avantages. Elle ne sera jamais une vérité possédée, elle reste un mystère, objet de foi. Elle est un bien absolu et définitif qui se donne à désirer à partir d'expériences relatives et passagères. Beaucoup d'interprétations des Écritures, et surtout les points essentiels, ne sont pas à confondre avec des démonstrations. Cela n'empêche pas d'argumenter, mais on peut raisonner pour fonder une espérance sans qu'elle s'impose comme une contrainte pour la raison. Ce mot, raisonnement,